Amen. Alors, les quatre premiers versets de ce psaume, pour moi, parlent de désirer Dieu de tout son cœur. Et c'est quelque chose que David a vécu tout au long de sa vie, je crois. On voit dans ce psaume et dans d'autres endroits qu'il a, dans d'autres psaumes qu'il a écrits, que vraiment il avait ce désir, cette passion, cette soif de connaître Dieu, de passer du temps de qualité dans sa présence, de pouvoir le découvrir de plus en plus, de pouvoir le connaître de plus en plus. On voit que c'était un homme qui était passionné de Dieu, qui était assoiffé et affamé de le connaître. Et je trouve que c'est quelque chose de très inspirant. Il voulait être intime avec Dieu et c'était le but de sa vie. Et en fait, c'est vrai que nous sommes faits pour ça. Si on réfléchit à la création, Dieu crée l'homme et la femme, pourquoi est-ce qu'il nous a créés ? Alors je pense que la première raison, c'est pour se glorifier, c'est pour sa gloire. Mais une raison principale, c'est d'être en relation avec nous. Et c'est pour ça qu'il a créé Adam et Ève dans le jardin, où ils pouvaient parler à Dieu de face à face, cœur à cœur, ils pouvaient échanger. Et bien sûr, la chute a coupé cette relation, il y a un précipice entre Dieu et nous. Et Jésus-Christ est venu restaurer cette relation. Mais vraiment, je crois que nous sommes faits pour être en relation avec Dieu. Nous sommes ses créatures et nous sommes créés pour le connaître, pour passer du temps avec lui, pour le louer, pour être en relation, en communion avec lui jour après jour. Alors c'est ce pourquoi on est fait. Puis la joie de connaître Dieu, elle est réelle. Et je crois que le connaître plus implique plus de joie. Et plus je le connais, plus je serai joyeux. Désirer Dieu te donne de le connaître. En fait, ça part de cette soif et de cette faim dont parle David. Parce que si on n'a pas soif et si on n'a pas faim de Dieu, on fait notre route. La vie est belle ou pas. Et puis, on arrive à la fin de notre vie. Et puis, on a à peine ouvert notre Bible, on a à peine pris le temps de prier, on a à peine pris le temps de passer du temps avec lui. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai à cœur qu'on puisse recevoir de Dieu un renouvellement dans notre faim et dans notre soif de lui. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'arrive jamais au bout. On a beau apprendre à le connaître de mieux en mieux, en fait, on n'est jamais au bout. On sera toujours surpris par quelque chose, on va toujours redécouvrir quelque chose plus profondément. Parfois, dans ma vie de foi, j'étais un peu frustré parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait rien de nouveau. D'avoir fait le tour, je connais un peu ma Bible, ça fait des années que je vais à l'église, j'ai entendu plusieurs fois en prêche sur le psaume 63. Je connais. Et pourtant, je crois qu'on peut... Ok, il n'y a rien de nouveau parce que Dieu ne change pas. Et c'est une bonne nouvelle en fait. Mais je crois qu'on peut par contre comprendre de plus en plus profondément qui il est. Et même quelque chose de, si j'ose dire, simple comme l'évangile. Si on se plonge dans l'Évangile et qu'on le comprend de manière plus profonde, ça va impacter notre vie avec profondeur et puissance. Donc il n'y a pas forcément quelque chose de nouveau, mais il y a plus profond. On ne peut pas toucher le fond de la connaissance de Dieu. Alors, c'est vrai que le désir de David, il est plutôt extrême. Il dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Waouh ! Ta bonté vaut mieux que la vie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est mieux de mourir, comme Paul le dit d'ailleurs en Philippiens, non c'est pas là, oui en Philippiens 1:21, c'est Paul qui dit « En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain », mais après il dit « Pour la mission que Dieu lui a donnée, c'est mieux qu'il reste sur la terre. Ta bonté vaut mieux que la vie. » En fait, je crois que ça veut dire que une vie sans Dieu ne vaut pas la peine d'être vécue. Je crois que ça veut dire que si on vit même des belles choses de ce monde, mais sans être connecté à notre Créateur, sans le connaître pour qui il est, eh bien en fait ça ne vaut pas la peine. Alors, ce qu'il faut aussi prendre en compte dans ce psaume, c'est le contexte. Parce que ce psaume n'a pas été écrit sur une jolie table comme celle-ci, à un banquet, dans un canapé moelleux avec un feu de bois qui ronronne à côté. Elle chasse sur les genoux. Alors c'était un petit peu différent. David était en fuite. Il fuyait son fils Absalom, qui voulait le tuer pour prendre sa place de roi. Alors c'est une grande histoire, on peut la lire notamment dans 2 Samuel 15 à 17. Mais il faut comprendre que David était dans un moment de sa vie très compliqué, dans une situation qui semblait mais sans issue. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit ce psaume. C'est à ce moment-là qu'il dit « Mais Seigneur, mon âme a soif de toi ». Et je crois que dans les difficultés, c'est important de rester centré sur Dieu et centré sur notre désir de le connaître. Alors il était dans le désert, et peut-être qu'on peut faire une allégorie aujourd'hui aussi de quand on traverse un désert dans notre foi, lorsqu'on est dans des difficultés dans notre vie avec Dieu, lorsqu'on est juste fatigué de notre foi, de notre vie spirituelle, et bien peut-être qu'on peut aussi prendre ce psaume et déclarer « Mais Seigneur, viens me donner ta faim, viens me donner soif de te connaître ». En fait, David recherchait Dieu malgré les difficultés. Je crois que les difficultés qu'on peut traverser et qu'on traverse tous un jour ou l'autre, elles doivent avoir moins d'importance que notre recherche de Dieu et notre désir de le connaître. Alors, et toi, qu'est-ce que tu désires profondément? Est-ce que comme David, tu soupires après Dieu? En fait, une bonne manière de savoir où on en est, c'est de se poser ce genre de questions. Où est-ce que va mon temps? À quoi je pense le plus durant ma journée? Où est-ce que va mon argent? Ça, c'est une bonne question aussi pour savoir qu'est-ce qu'on désire. À quoi est-ce que mon cœur est attaché? Et j'ai juste envie de m'arrêter sur ce verset 3 que je trouve exceptionnel. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire. Est-ce que je prends assez de temps pour contempler Dieu dans son sanctuaire, dans le lieu secret? Et c'est fou parce qu'il est dans le désert. Donc en fait, il n'y a pas le temple dans le désert. Et ça montre qu'on n'a pas besoin d'être à l'église aussi pour contempler Dieu. On peut le faire tout seul, dans sa chambre, dans sa cuisine, en marchant, n'importe où en fait. En fait, j'ai remarqué que moi je ne prends pas assez de temps pour contempler Dieu dans son sanctuaire. J'ai lu un livre excellent sur le management, et je fais un cours de management, et un des principes de management, c'est « focus on a few things », ça veut dire « concentre-toi sur une faible quantité de choses ». Et j'ai remarqué que j'arrive plus à me concentrer. Moi, je suis de la génération multitasking, ça veut dire que je fais tout en même temps. Je prends 20 minutes pour préparer quelque chose, après je réponds à 3 appels, après j'écris un message, j'écris un mail, je reprends ce que je faisais. Et Dieu m'a dit, mais il faut que tu réapprennes à te concentrer. Et donc c'est quelque chose que je suis en train de faire et je n'y suis pas encore du tout. Mais j'essaye de réapprendre à me concentrer non seulement dans la manière dont je travaille, mais surtout dans la manière dont je prends des temps avec Dieu. Être, même si c'est 20 minutes, être 20 minutes, mais être là. Et pas que mes pensées partent à droite et à gauche, que je réponde vite à un message au milieu de ma prière. Bref, j'ai beaucoup à apprendre et je trouve que c'est inspirant de contempler Dieu dans son sanctuaire. Ok, on va passer à la deuxième partie de ce psaume. Donc, désirer Dieu de tout cœur, c'était la première partie, mène à la louange et à la satisfaction. Le fait de désirer Dieu de tout cœur produit deux choses, c'est la louange et la satisfaction. Je relis juste les versets en question, donc les versets 5 à 7. Ainsi, je te bénirai toute ma vie, je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme par une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Alors, la louange. David y désire Dieu, ça le mène à le connaître. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on connaît Dieu? Lorsqu'on comprend qui il est et ce qu'il a fait? Mais ça nous donne envie de le louer. En fait, plus je découvre Dieu et plus je ressens le besoin de le louer et de l'adorer. Qui est-ce qui a déjà expérimenté ça? Quelques-uns, cool. Ça prend du temps. En fait, c'est comme de construire une relation. En me présentant, j'ai oublié de dire que je suis venu avec Christina et William, donc ma femme et mon fils. Je ne sais pas où ils sont, je pense que William était celui qui pleurait fort. Alors elle est partie dehors, ou je ne sais pas, mais c'est la première fois que William vient à l'église aujourd'hui. Alors je suis très, très content, il a 2 mois. Bref, je dis ça parce que je disais que c'est comme construire une relation. Et si je passe, enfin si le seul temps que je passe avec ma femme ou avec mon fils, c'est juste, je ne sais pas, pour manger en 5 minutes, et puis pour lui dire « salut, bonne journée », eh ben la relation ne va pas grandir. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande un investissement, une intentionnalité. Donc même si c'est difficile pour toi aujourd'hui et que tu n'as pas forcément envie de louer Dieu, que tu ne ressens pas ce besoin de le louer, ben je t'encourage à persévérer dans ce cheminement d'apprendre à le connaître et d'être émerveillé par qui il est. Alors, je disais que la soif de Dieu et la connaissance de Dieu mènent à la louange, mais ça mène aussi à la satisfaction. Et je crois que ça, c'est un thème aujourd'hui qui est tellement important, en tout cas moi, de ce que je vois, des gens que je côtoie, c'est vraiment quelque chose qu'on doit apprendre à être satisfait, à être content avec ce qu'on a, et surtout en Dieu. Alors, nous sommes satisfaits en Dieu, non quand... Enfin, pas juste pour ses dons, ou pour ce qu'il fait, ou pour ce qu'il me donne. Je suis satisfait en Dieu parce qu'il m'a béni aujourd'hui, parce qu'il m'a guéri, et c'est super. Non, c'est pas ça la satisfaction dont je parle. Je parle d'une satisfaction qui consiste à aimer Jésus pour qui il est, et pour qui il est. Aimer Dieu pour qui il est. Être satisfait en lui parce qu'il me suffit. Même s'il ne me donne rien, et même si je ne ressens pas forcément sa présence, être satisfait en lui. Sinon, c'est comme si, je prends encore l'exemple de ma femme, c'est comme si je disais à ma femme, écoute, je t'aime bien parce que tu cuisines bien. Voilà. Il y a un problème. Je ne l'aime pas pour ce qu'elle me donne, mais je l'aime pour qui elle est, pour la personne qu'elle est. Aimer Jésus, en fait, c'est être satisfait en lui. Et un théologien que j'aime bien, il s'appelle John Piper, il a dit cette phrase en parlant de ce verset, de ce psaume. « He is most glorified in us when we are most satisfied in him. » C'est-à-dire, il est le plus glorifié en nous lorsque nous sommes le plus satisfaits en lui. Je trouve cette phrase magnifique. Jean 6, 35, Jésus leur dit « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alors David, il a pu expérimenter la satisfaction en Dieu. Et Jésus-Christ étant venu aujourd'hui, je pense qu'on a encore un plus grand accès à être satisfait et à être content en Dieu. Et puis encore une fois, David, il était satisfait malgré le désert et malgré les difficultés qu'il traversait. Alors je crois que la première prière... lorsqu'on traverse des difficultés, il ne devrait pas être « Seigneur, change mes circonstances », mais plutôt « Seigneur, donne-moi d'être satisfait en toi malgré ce que je vis, ou au milieu de ce que je vis. » Et c'est fou parce qu'on voit aussi dans ce psaume que la soif et la satisfaction, elles vont ensemble, elles grandissent ensemble. Plus j'ai soif, plus je serai satisfait. Et plus je serai satisfait, plus j'aurai soif. C'est pas opposé l'un et l'autre. Ce que j'aime aussi dans ces quelques versets, c'est qu'on voit que David avait l'assurance de son futur. Il savait que toute sa vie, il allait louer Dieu. Il savait que toute sa vie, il allait le glorifier, qu'il allait l'adorer, qu'il serait content en lui. Pourquoi ? Parce que lorsque Dieu touche ton cœur, qu'est-ce qu'on ferait d'autre que de l'adorer et de passer du temps dans sa présence ? Lorsque Dieu nous a impactés, on est comme... on ne peut pas partir, on ne peut pas changer. Voilà pour cette deuxième partie. Je vous propose de prendre la fin du psaume. Donc, si je reprends ma phrase, moi j'aurais dû la noter dans mes notes. Désirer Dieu de tout cœur mène à la louange et à la satisfaction et donne paix et sécurité. Et ça, ce sont les versets 8 à 12. Oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. Mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée, ils seront la proie des chacals. Le roi se réjouira en Dieu, tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter, car la bouche des menteurs sera fermée. Alors Dieu est ma sécurité, Dieu est mon refuge. Et comme David, je crie de joie à l'ombre de ses ailes. En fait, si tu connais Dieu, ta vie est cachée en lui. Il te protège. Il prend soin de toi. Sa bonté prend soin de toi. Sa grâce est sur ta vie. Et on a l'assurance que quoi qu'on vive, il demeure présent et il reste le même. Et ça, c'est quelque chose de tellement fort. Et plus encore, pour nous aujourd'hui que pour David, on a cette assurance du salut en Jésus-Christ. Si on a dit à Jésus, mais tu es mon Seigneur, je te donne ma vie, ben on a l'assurance d'être sauvé. On a l'assurance de la vie éternelle avec lui. Et c'est dans ce sens que Dieu est notre refuge. Et ce verset 8, je le trouve incroyable. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Alors imagine un lieu confortable où tu es au chaud, couvert par les ailes de Dieu. Alors c'est sûrement une image, hein, je ne pense pas que Dieu a des ailes au sens propre, mais au sens figuré. Être confortable, protégé dans sa forteresse, dans ce lieu douillet qu'est ses ailes, que sont ses ailes. Et dans ce lieu, on se sent bien et on est protégé. Alors l'image, c'est du soleil, mais je crois qu'on est protégé du péché, on est protégé du mal, on est protégé de la mort. Ensuite, il y a les versets 10 et 11. Ils sont un petit peu plus compliqués. David semble vouloir la mort de ses ennemis. C'est quelque chose qui est plus compliqué aujourd'hui à comprendre, à voir. Mais heureusement, j'ai trouvé un bon commentaire de Jean Calvin que je vous propose d'écouter. C'est quelques lignes. Donc, il parle des versets 10 et 11. « Mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée. » Ils seront la proie des chacals. C'est là le sort que les meilleurs des hommes ont rencontré dans le monde. Car les bons comme les méchants sont exposés au coup du malheur temporel. Mais il y a cette distinction, que Dieu veille sur la poussière éparpillée de ses propres enfants, la rassemble et ne permet à aucun d'eux de périr. Tandis que lorsque les méchants sont tués et que leurs ossements sont répandus dans les champs, ce n'est que la préparation de leur destruction éternelle. Alors ce qu'on comprend dans ces versets, c'est que parce que nous sommes en Dieu, parce que nous sommes protégés en lui, ben même s'il nous arrive quelque chose de compliqué, il va prendre soin de nous. Et même si on meurt, il va rassembler il parle de poussière éparpillée, et il va nous redonner un corps glorieux pour l'éternité. Alors que ceux qui ne sont pas en Dieu seront perdus à jamais. Et finalement, le verset 12, qui est aussi interpellant, « Le roi se réjouira en Dieu, tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter car la bouche des menteurs sera fermée. » En fait, le roi dans ce verset, c'est David lui-même. Il parle de lui à la troisième personne. « Le roi se réjouira en Dieu. » Et c'est beau qu'il le fasse parce que ça montre, alors je l'ai dit, Absalom cherchait à le tuer pour prendre sa place. Et ça nous montre que c'est Dieu qui a établi David. Rien ne peut s'opposer au plan de Dieu, rien ne peut s'opposer à ce que Dieu a décidé. Et finalement, ça ouvre plus large tout homme qui prête serment par lui pourra s'en féliciter. Alors si tu as prêté serment par Dieu, tu pourras t'en féliciter pour l'éternité. Voilà, donc j'aime bien ce psaume parce qu'il montre la passion et le zèle pour Dieu, comme je l'ai dit au début. Et pour redire la phrase qui semble résumer ce psaume, « Désirer Dieu de tout cœur mène à la louange et à la satisfaction et donne la paix et la sécurité. » Et je crois que c'est un cycle. Plus je désire Dieu, plus je le connais. Plus je le connais, plus je l'aime et plus je le loue. Plus je suis satisfait en lui. Et cette satisfaction me donne encore plus de soif. Et ça recommence. Et ma prière, c'est qu'à chaque cycle, on puisse aller plus profond et découvrir encore plus profondément qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, et être encore davantage émerveillé en lui. Et donc si aujourd'hui, tu ne connais pas Dieu, je prie qu'il puisse te donner cette soif de le connaître. Si tu es fatigué et chargé dans ta foi, si tu en as parfois marre de venir à l'église, si tu es fatigué d'essayer de connaître Dieu, je prie qu'il vienne te donner cette soif, une fraîcheur. Si tu es dans un désert, je prie qu'il vienne t'abreuver, te donner la soif de lui. Et puis si tout va bien, je prie aussi qu'il vienne te renforcer ce désir et cette passion, ce zèle que tu as pour lui. J'ai envie de prier dans ce sens pour conclure. Seigneur, merci pour ce psaume, merci pour ta parole, merci parce que nous trouvons notre refuge en toi, notre satisfaction, notre paix. Merci parce que le fait de te connaître nous donne envie de te louer. Et Seigneur, j'ai envie de déclarer ce matin que tu viens remplir nos entrailles de soif, de passion, de désir de toi, afin que nous puissions vraiment te rechercher et te connaître de plus en plus. Alors Seigneur, viens remplir nos êtres entiers de désir de toi. Et je prie que ces prochains jours, ces prochaines semaines, tu viennes nous attirer à toi, nous donner cette envie de passer du temps avec toi, d'apprendre à te connaître au travers de la lecture, de la louange, de la prière. Seigneur, je prie pour un souffle nouveau, pour une fraîcheur dans notre vie avec toi et pour des semaines de vie de foi stimulante. Alors viens nous donner faim et soif de toi ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.